Chapitre 7. Adossée à la paroi, Nicole inclina la tête contre l'épaule de Richard et somnola. Elle rêva qu'elle était sur une île menacée par un raz-de-marée. Ses enfants étaient au loin et elle ne savait comment les sauver. Elle s'éveilla en sursaut.
« Richard, réveille-toi !»
Il n'ouvrit les yeux que lorsqu'elle le secoua une deuxième fois.
« Que se passe-t-il ? » ? « J'ai un mauvais pressentiment. Nous sommes en danger. »
Il alluma sa torche et regarda autour d'eux.
« Il n'y a personne et je n'entends rien. Je le sens. Je sais que tu ne crois pas aux prémonitions, mais les miennes ne m'ont jamais trompé. »
« D'accord, » grommela-t-il. Il se leva et alla tirer la seconde porte.
« Il n'y a rien ici non plus. »
Il retourna vers l'issue donnant sur le Pentagone. Ils remarquèrent les bruissements dès qu'il poussa le battant. Nicole se leva d'un bond. Richard referma le panneau et revint lui murmurer « Il faut chercher un autre passage. » Ils traversèrent en courant des pièces obscures et désertes et finirent par atteindre une double porte. Richard conseilla à Nicole de rester en retrait pendant qu'il poussait prudemment un ventail.
« Bon Dieu !»
s'exclama-t-il. Elle le rejoignit sur le seuil d'une salle encombrée d'étranges objets. Une chose faisait penser à une amibe géante juchée sur une planche à roulettes, une autre à une grosse pelote de laine d'où saillaient deux aiguilles à tricoter. Richard braqua sa torche sur ce bric-à-brac.
« Là-bas !» fit Nicole surexcitée. « À quelques mètres sur la gauche de cette porte !»
Le faisceau révéla quatre silhouettes humaines en combinaison spatiale assises contre la paroi.
« Ce sont les biotes humains que nous avons vus peu avant de retrouver Michael au bas du télésiège. Norton et ses hommes ? Je suis prête à le parier. »
Ils entrèrent et se frayèrent un chemin au sein du fouillis pour aller s'agenouiller à côté des simulacres.
« C'est un dépotoir pour biotes, »
dit-elle. Elle avait reconnu derrière la visière du casque les traits du commandant Norton, responsable de l'expédition envoyée par la Terre vers Rama 1.
« Incroyable !» déclara Richard en se relevant. « Que font-ils ici ?»
Il balaya les lieux avec le rayon de sa torche et Nicole hurla en voyant un octopode à moins de 5 mètres. Son mari se précipita vers elle. Ce n'était qu'un biote, et ils éclatèrent de rire.
Pourrions-nous rentrer à la maison, monsieur Wakefield? J'ai eu suffisamment d'émotions fortes pour aujourd'hui.
Bien sûr, répondit-il en souriant. Si nous retrouvons notre chemin, cela va de soi. Ils s'enfonçaient dans un labyrinthe de salles et de tunnels, et Nicole perdit tout espoir de découvrir la sortie. Richard prit le temps de compléter ses plans. Ils cessèrent de revenir constamment sur leurs pas, sans retrouver pour autant un seul de leurs points de repère. Ils allaient renoncer lorsqu'ils virent un camion biote s'éloigner dans un étroit couloir. Richard se détendit.
Ce qu'il transporte a dû être fabriqué à la demande de passagers de ce vaisseau, comme ce qu'on nous livre dans la salle blanche. Si nous nous dirigeons vers le point de départ de ce véhicule, nous atteindrons le lieu où sont traitées les commandes. De là, nous devrions pouvoir regagner notre refuge.
Ils étaient à bout de force lorsqu'ils pénétrèrent dans une immense usine bien des heures plus tard. 4 rangées de 3 cylindres de 5 mètres de haut pour 1,5 mètre de diamètre occupaient le centre de la salle. Des équivalents raméens de tapis roulants traversaient ces sortes de chaudières. Richard désigna un secteur où s'empilaient des objets de toutes formes et dimensions.
« Regarde, voilà la matière première. L'ordinateur reçoit une demande et programme une de ses machines pour qu'elle la traite.
Des biotes placent ce qui est nécessaire sur la bande de roulement et les produits finis, conformes aux spécifications, sortent de l'autre côté. » Il approcha de l'appareil en activité le plus proche.
Le mystère, c'est ce qui se déroule là-dedans. Le processus est-il chimique, nucléaire? Les Raméens utilisent-ils des techniques qui dépassent notre entendement? Il donna des coups sur le cylindre. Sa paroi est épaisse, annonça-t-il. Il se pencha vers la trappe d'entrée du tapis roulant et tendit la main à l'intérieur. « Richard !» hurla Nicole. « Tu es inconscient !» Il la regarda et haussa les épaules. Il se baissait de nouveau pour reprendre ses observations quand un étrange biote, une sorte de caméra juchée sur de longues pattes, arriva en courant du fond de la salle pour s'interposer. « Je constate que les systèmes de sécurité sont efficaces. » commenta Richard en se tournant vers Nicole. « Ne crois-tu pas que nous ferions mieux de chercher le chemin de notre refuge ? Accorde-moi une seconde. Je veux jeter un coup d'œil à ce qui sort de cette machine. Après avoir vu les matières premières et le produit fini, je pourrais peut-être comprendre comment s'opère la transformation. » Elle secoua la tête. « J'oubliais que la connaissance est pour toi une drogue. Tu es bien le seul humain que je connaisse qui s'arrêterait pour étudier la flore et la faune d'une forêt où il se serait perdu. » Elle découvrit un passage et réussit à le convaincre d'interrompre son étude de l'usine extraterrestre. Il ne pouvait savoir où conduisait ce tunnel, mais il représentait leur seul espoir. La marche fut interminable. Dès qu'elle se sentait lasse ou découragée, son mari lui remontait le moral en commentant avec enthousiasme ce qu'ils avaient découvert. Ils étaient au bord de l'épuisement quand Richard reconnut la bifurcation située à seulement 2 kilomètres de leur refuge. « Regarde !» s'écria-t-il. « Nous sommes presque rendus. »« Éteins ta torche !» cria Nicole en entendant un bruit. Il fit demi-tour, manqua tomber et poussa l'interrupteur de sa lampe. Les bruissements s'amplifiaient. « Filons !» hurla Nicole en détalant. Richard atteignit l'intersection 15 secondes avant le premier des octopodes qui venait du canal. Sans ralentir, il se tourna et braqua le faisceau de sa torche derrière lui. Il vit au moins 4 bandes colorées dans le noir. Ils tirèrent tous les meubles de la salle blanche devant l'écran afin d'ériger une barricade et attendirent des heures, prêts à voir le panneau remonter et des monstres envahir leur refuge. Rien ne se produisit et ils décidèrent d'aller passer la nuit dans la pouponnière en laissant Jeanne et Aliénor monter la garde. Pourquoi les octopodes ne nous ont-ils pas suivis jusqu'ici ? Demanda Richard le lendemain matin. Ils doivent savoir que l'écran se lève dès qu'ils détectent une présence. Pour ménager nos nerfs fragiles, qui sait ? Rien ne démontre qu'ils sont hostiles. Même si tu estimes qu'ils t'ont maltraité quand tu étais leur prisonnier, ils ont eu des égards envers Cathy et moi, et ils t'ont finalement rendu la liberté. J'étais dans un coma profond. Je ne leur étais plus d'aucune utilité. En outre, tu oublies Takagishi, ainsi que le prince Hal et Falstaff. Il existe plusieurs explications. Si le professeur est mort d'une crise cardiaque, les octos ont pu l'empailler pour le montrer à leurs congénères. Les hommes en auraient sans doute fait autant avec la dépouille d'un de ces êtres. Elle réfléchit un instant, puis ajouta « Quant à l'agression contre le prince Hal et Falstaff, je pense à un malentendu. Tes robots ont dû entrer dans un endroit sacré, un nid ou l'équivalent d'une église, et il est naturel que nos voisins protègent ce qui compte le plus à leurs yeux. Ça me dépasse. Tu prends leur défense alors que tu as déguerpi encore plus vite que moi. » J'étais terrifié, c'est exact. J'ai cédé à mon instinct, et j'avoue que ma réaction me déçoit. Notre esprit devrait pouvoir contenir nos pulsions animales. Et après avoir vu tant de choses dans Rama et au point nodal, nous devrions être immunisés contre la xénophobie. Il sourit et hocha la tête. Crois-tu que ces octopodes souhaitaient établir un contact amical? J'ignore quelles étaient leurs intentions. Je sais seulement qu'ils n'ont pas été agressifs. J'aimerais me souvenir de ce qui s'est passé quand j'étais dans leur antre. D'épouvantables migraines m'empêchent toujours d'approfondir la question chaque fois que je concentre mes pensées sur cette période de mon existence. je n'ai pu aborder ce sujet avec sérénité que pendant mon séjour à l'intérieur du Cécil. C'est de l'histoire ancienne. Les Octos ont peut-être changé d'attitude envers nous.
Entendu. Tu m'as convaincu. La prochaine fois, nous ne prendrons pas la fuite.
Il rit. Pas immédiatement, en tout cas.
Un mois s'écoula. Ils ne s'aventurèrent plus au-delà de l'écran noir et ne rencontrèrent aucun octopode. Ils s'occupaient des oisillons qui apprenaient à voler et parlaient de leurs enfants et de leurs aventures.
« On se fait vieux », déclara Nicole un beau matin.
Ils se promenaient sur une des trois places centrales de New York.
« Comment peux-tu dire une chose pareille ?»
lança Richard avec un sourire malicieux.
« Parce que nous radotons à propos du passé et que nous faisons de moins en moins l'amour ?»«
Notre cas est donc désespéré à ce point ?» fit-elle en riant.
« Pas tout à fait.
Je t'aime toujours comme un adolescent, même si mes rhumatismes me le font parfois oublier.
Ce qui me rappelle, n'avais-tu pas des problèmes cardiaques ?»«
Si, mais je ne dispose ici que d'un stéthoscope et d'un tensiomètre. » Je les ai utilisés souvent sans rien relever d'anormal. Ces douleurs étaient sans doute dues à la tension nerveuse et à l'âge.
Si notre gendre était là, il pourrait te soumettre à un examen approfondi.
Ils marchèrent plusieurs minutes en silence.
Les enfants te manquent, pas vrai ?
Demanda-t-il.
C'est exact. Mais j'évite de penser à eux. Je suis heureuse d'être en vie et à ton côté, et j'en garde de merveilleux souvenirs.
Puisse Dieu m'accorder la sagesse d'accepter ce que je ne peux changer, cita Richard.
J'envie ton équanimité.
Ma quoi ?
Se demanda Nicole, que la mort de Valérie Borzov avait obsédée.
Je n'ai pu trouver le sommeil qu'après avoir obtenu la preuve que je n'en étais pas responsable. Si je suis sereine, c'est depuis peu. La maternité et l'âge apportent du recul.
Peu après, Richard s'arrêtait pour l'étreindre.
Je t'aime à la folie.
Quelle est la cause de tant d'exubérance ?
S'enquit-elle, troublée. La semaine dernière, j'ai conçu un nouveau projet. Il est dangereux tout autant qu'insensé, mais il m'obsède. J'ai voulu m'assurer qu'il était réalisable avant de t'en toucher deux mots.
De quoi parles-tu donc ?
De nos enfants. J'ai tout organisé pour qu'ils puissent venir nous rejoindre à New York. J'ai commencé à programmer Jeanne et Aliénor pour cette nouvelle mission.
Nicole le dévisageait, en proie à de vives émotions.
Une minute, Richard. Qu'est-ce qui te fait supposer qu'il souhaite quitter le Nouvel Éden ?
Nakamura est un tyran, certes, et la vie est là-bas difficile et déprimante. Mais ils sont libres, et si ton plan échouait, ils seraient en danger. En outre, je doute que l'existence que nous menons ici puisse les tenter.
Je sais. Mais ne penses-tu pas que Jeanne et Aliénor devraient aller leur poser la question ?
Patrick et Ali sont des adultes, et c'est à eux d'en décider.
Tu oublies Benji et Cathy.
Benji aura besoin des autres. Quant à Cathy, elle est trop instable et imprévisible. Je crains qu'elle n'en parle à Nakamura.
Les parents ne renoncent jamais à l'espoir. Mais il y a aussi Max et Éponine. Ils font pour ainsi dire partie de la famille.
Max se chargera de tout. Il a été formidable pour ton évasion.
Patrick et Ali auront besoin des conseils d'un homme mûr.
J'ai chargé Jeanne et Aliénor de le contacter le premier.
S'ils déclarent que ce projet est insensé, nous renoncerons.
Nicole tentait d'imaginer la joie qu'elle éprouverait en étreignant ses enfants.
Entendu, fit-elle. J'avoue que ça m'intéresse. Mais tu dois me promettre de renoncer s'il y a pour eux le moindre danger.